Vous êtes sur RTL.
Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous au 3210. Ce soir à la une, un contrat de 16 milliards d'euros, 5000 emplois créés, Emmanuel Macron, super VRP dans le Golfe. La France vend 80 rafales aux Émirats, l'Elysée salue le contrat du siècle, mais pendant ce temps-là, les ONG et la gauche s'insurgent. Et si on parlait des droits de l'homme, les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La Belgique a avance d'une semaine les vacances de Noël pour cause de Covid. La sanction contre Didier Raoult, accusé de charlatanisme, ses pairs lui ont infligé aujourd'hui un blâme.
La cinquième vague Didier Raoult, nous en discuterons avec notre invité de 18h15, le numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve.
Dans ce journal aussi, le déplacement de Marine Le Pen en Pologne. Et puis foie gras, champagne et Bria Savarin truffés pour DSDF à Reims. Les courses et dans le Quintet Plus en nocturne à Vincennes. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 4, le 3, le 5, le 2, le 12, le 10 et l'As.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL avec cette question. Pourquoi Cédric Jubilard reste en prison? Après 18h30, laissez-vous tenter dernière. On va écouter le dernier album d'Angèle qui est sorti par surprise aujourd'hui. 18h40, on refait nos régions. Vos 20 minutes positives près de chez vous, comme chaque vendredi. Avec Marion, on va vous emmener près de Toulon avec une étudiante au grand cœur, à Lyon sur les pentes du téléphérique de la Discorde et puis en Alsace pour déguster des biscuits de Noël. 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud avec sa bande de journalistes étrangers. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le menu ?
On reviendra bien sûr sur la primaire des Républicains. Est-ce que les étrangers connaissent Valérie Pécresse et Éric Ciotti ? Qu'en disent-ils aussi ? Puis on parlera du chic français. Rien à voir. Mythe ou réalité ?
Bah non, Éric Ciotti n'est pas chic, c'est ça que vous voulez dire ?
Je n'ai pas du tout dit ça. Mais vous verrez.
On verra. Très bien.
Ce sera à 19h15.
Ce sera à 19h15. Ils refont la France. Et puis des points tout au long de l'émission sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
Dites-nous tout la tendance.
Eh ben, une dégradation arrive ce soir par le nord-ouest. En toute logique, elle va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Ça nous promet un petit peu de neige jusqu'en plaine au petit matin dans les régions de l'est.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Après la Grèce, après l'Égypte, après la Croatie, le Rafale s'exporte à nouveau, cette fois aux Émirats Arabes Unis.
Commande record de 80 appareils annoncés ce matin à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron. Un déplacement que vous suivez pour RTL, Nerissa Emani. Un contrat à 16 milliards d'euros qui vient conclure de très longues négociations.
C'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de négociations. À travers ce contrat historique, les Émirats Arabes Unis renouvellent leur confiance aux Français. De quoi donner le sourire à Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, présent ici lors de la signature à l'Exposition Universelle de Dubaï.
Les astres s'alignent et les Émiriens ont décidé que c'était maintenant qu'il fallait passer à l'étape du futur avec ces 80 rafales.
La livraison de ces avions de chasse dernière génération est prévue pour début 2027, alors il va falloir accélérer la cadence dans l'usine de fabrication à Mérignac. Et pour cela, Dassault envisage de créer entre 4000 et 5000 emplois.
Le Rafale est entièrement produit en France. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thalès et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. On a du travail avec ce contrat jusqu'en 2030.
Avec ce gros contrat, les Émirats Arabes Unis deviennent le premier pays étranger utilisateur des Rafales.
Nerissa Emani à Dubaï pour RTL.
Des années de production garantie donc pour Dassault et ses sous-traitants. Forcément, à Mérignac, où les Rafales sont assemblés, la nouvelle fait des heureux à l'image du maire socialiste Alain Andiani.
Le maire de Mérignac se réjouit pour notre pays, il se réjouit pour la métropole et il se réjouit évidemment pour sa ville. C'est pas un one shot. Une commande de 80 rafales, ça veut dire un plan de charge qui va aujourd'hui s'étaler sur une dizaine d'années. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on peut être sûr de ce qui va se passer dans les 10 ans. Aujourd'hui, il y a 1200, 1300 personnes qui travaillent sur Mérignac. Donc là, si on arrive à sécuriser autant d'emplois sur 10 ans, évidemment, c'est pour nous une information très importante. Écoutez, franchement, on est dans une période un peu grise. Hein. Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Et là, c'est quand même un rayon de soleil, il faut bien
le
dire.
Alain Andiani, le maire de Mérignac, avec Philippe Demaria pour RTL.
Cette commande critiquée, en revanche, par le candidat écologiste Yannick Jadot. La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires, a-t-il écrit sur Twitter. Pour l'ONG Human Rights Watch, le maintien de partenariats militaires douteux va rester comme une tache sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron.
Et on évoquera cette question des droits de l'homme dans les dessous de l'actu dans moins d'une demi-heure sur RTL. Pour l'heure, 18h04, c'est la question du moment à travers toute l'Europe face à une nouvelle vague du Covid. À l'approche des fêtes de Noël, est-ce qu'il faut renforcer les restrictions? Si rien n'est encore décidé en France, la Belgique, elle, a tranché.
Bonsoir Caroline N.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de RTL à Bruxelles. Chez vous, le taux d'incidence est à plus de 2000, c'est-à-dire 6 fois plus élevé qu'en France. Et les autorités ont donc décidé d'agir, notamment en avançant les vacances de Noël.
Oui, ce point a fait l'objet de longues discussions entre les différents membres du gouvernement pour finalement aboutir à ce compromis. Les enfants de maternelle et de primaire seront un peu plus tôt en vacances, une semaine en avance. Pour les collèges et lycées, dès lundi, c'est le retour à des cours moitié à domicile, moitié à l'école. Le masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans au lieu de 10. Beaucoup de secteurs étaient inquiets ce matin avant l'annonce des mesures, mais la majorité est épargnée. Pas de fermeture des salles de sport, ni des restaurants et des bars. En revanche, pour les grands événements comme les concerts ou les matchs de foot, dès demain, ceux rassemblant plus de 4000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Et dès lundi, plus possible pour les salles d'avoir plus de 200 spectateurs. Les autorités se retrouvent le 20 décembre pour évaluer à nouveau la situation sanitaire. Les fêtes de fin d'année ne sont pas encore sauvées.
Caroline N à Bruxelles pour RTL.
En France, c'est lundi que le gouvernement va se pencher sur la situation sanitaire. Approche pragmatique, promet Emmanuel Macron.
Je souhaite qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire au minimum tous les 15 jours, des conseils de défense, comme ça s'est toujours passé. Ce sera le conseil de défense la semaine prochaine, et donc on regardera l'évolution de la situation. On fera, comme toujours, avec pragmatisme, proportion et avec la même philosophie, une évaluation de la situation et des réponses à apporter. Je considère que ce qui a été décidé il y a maintenant près de 10 jours étaient les bonnes décisions à prendre et que la stratégie que nous avons nous permet aujourd'hui de résister. On voit bien qu'il y a cette cinquième vague qui est là. Mais il faut continuer de vacciner, de vacciner, de vacciner, de tenir les disciplines, de continuer à nous organiser.
Emmanuel Macron ce matin sur le Conseil de défense sanitaire prévu donc lundi.
De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit ce matin vouloir éviter les mesures de contrainte, assurant que la vaccination pour les enfants à risque à partir de 5 ans pourrait être ouverte dès la mi-décembre. Il était accusé d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine malgré l'absence de résultats prouvés. La chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins s'est prononcée aujourd'hui sur le cas Didier Raoult, affaire délocalisée à Bordeaux pour éviter les tensions. Denis Grand, bonjour, vous êtes l'un des correspondants de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Didier Raoult écope donc d'un blâme, sanction placardée, mais pour l'instant sans explication, hein, Denis.
Oui, une simple feuille de format A4, derrière une vitre, avec cette observation en 5 lettres. Blâme. Aucun commentaire pour étayer cette décision. Les explications viendront plus tard. Le professeur Raoult, qui avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête puisque la radiation avait été évoquée, il peut donc souffler, même si dans son entourage, personne ne parlait de véritable inquiétude face à cette décision attendue. Le Conseil de l'Ordre, qui a donc choisi la sanction juste après celle du simple avertissement, le scientifique marseillais était également passible d'une interdiction temporaire d'exercer. Didier Raoult, qui est à la retraite depuis le mois d'août dernier, n'était pas présent à Bordeaux, pas plus que ses soutiens cet après-midi. De toute façon, le 5 novembre dernier, en première audience, ici même, il avait déclaré n'être concerné en aucune façon par la moindre sanction prononcée par le Conseil de l'Ordre.
Denis Grandjoue à Bordeaux pour RTL.
Et on demandera tout à l'heure au numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve, qui sera notre invité dans 7-8 minutes maintenant sur RTL, ce qu'il pense de cette sanction et ce qu'il pense aussi du rôle de Didier Raoult dans le retard vaccinal accumulé quelque peu à Marseille, où les hôpitaux commencent à se remplir et c'est l'une des villes les moins vaccinées de France. On aura l'occasion d'en discuter avec lui dans quelques instants. Pour l'heure, votre journal va se poursuivre juste après la pause. On va partir en Pologne où Marine Le Pen travaille sa stature internationale. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal avec cette équation. Comment exister face au congrès LR demain et au premier meeting de campagne d'Éric Zemmour dimanche? Eh bien, Marine Le Pen espère avoir trouvé la solution. Ce n'est pas un paradoxe, elle a vraiment décidé de prendre le large.
Oui, et de la hauteur, à l'étranger, en Pologne, précisément pour un sommet européen avec 14 leaders populistes et eurosceptiques. Marie Mollet, vous suivez pour RTL la candidate du Rassemblement National qui joue donc la contre-programmation avec ce déplacement.
Oui, une contre-programmation en or qui tombe à pic, applaudit un élu RN. Quoi de mieux que cette escale en Pologne, pays en plein bras de fer avec l'Union européenne, pour camper la femme d'État. Aussitôt arrivée, elle goûte aux délices d'un cortège officiel. solennité devant le monument en hommage aux victimes du ghetto de Varsovie, puis une flânerie dans le marché de Noël de la place Royale. Bref, Marine Le Pen fait tout pour montrer qu'elle est loin, très loin des agitations politiques de ses concurrents. En clair, elle a beaucoup mieux à faire.
Si vous voulez, moi, il s'avère que je suis une présidente de mouvement, une candidate à la présidentielle qui a des alliés en Europe. Il faut avoir des visions communes. Il faut porter des combats. Nous sommes considérés comme une force politique majeure, entendue à ce titre.
Et Marine Le Pen dînera ce soir avec le Premier ministre polonais, carton d'invitation fièrement partagé sur les réseaux sociaux, avant un rendez-vous demain avec tout le gratin des leaders populistes européens. Ça fait chic, glisse une huile du RN, et ça fait très mal à Éric Zemmour, qui lui a raté ses déplacements à l'étranger, à Londres et Genève.
Marie Mollet qui suit donc Marine Le Pen en Pologne pour RTL. Lui est à Chypre. Le pape François a dénoncé aujourd'hui la guerre de la haine et fustigé ceux qui empêchent les réfugiés d'entrer. Nous ne pouvons pas nous taire et regarder ailleurs, a estimé le souverain pontife.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec ce Noël festif en perspective pour des sans-abri à Reims, où le banquet de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Viticole Champenoise a été annulé hier pour cause de Covid, 800 repas étaient prêts. Et pas question de gâcher pour le président de cette association, François Pierson.
Je me retrouvais avec 800 repas, presque préparés, sur les bras, et on ne voulait pas gaspiller, surtout pas gaspiller. Du foie gras, de la canette avec des petits champignons, des girolles, des cèpes, un fromage aux truffes, et puis un dessert à la mangue. Donc, on a fait appel à la Maraude à Reims, qui distribue des repas au SDF. Ils ont été très, très, très contents, parce qu'on leur distribue un très beau repas qui va faire le Noël des SDF, et nous, on ne le gaspillera pas.
Pas de gaspillage et un peu de solidarité pour François Pierson avec Samuel Goldschmidt pour RTL.
Vive nos vignerons, merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps, chère Valérie, qu'est-ce que ça va donner pour demain ?
Eh bien, ça ne change pas en fait. On a encore une nouvelle dégradation qui arrive ce soir par le nord-ouest et qui va donc traverser le pays d'ouest en est dans les prochaines 24 heures. Ça va nous donner probablement un petit peu de neige demain matin jusqu'en plaine dans les régions de l'est et du massif central. Ensuite, la limite plus neige va remonter entre 1200 et 1400 mètres dans l'après-midi. À l'arrière, on peut espérer une petite éclaircie entre deux grains orageux, parfois d'un peu de grésille sur le nord et le nord-ouest. Et puis près de la Méditerranée aussi, ça va se dégrader avec des pluies assez fréquentes et des vents forts. Les températures demain matin seront comprises entre moins 2 et 10 degrés d'Aurillac jusqu'à Biarritz. Dans l'après-midi, comptez 6 à 17 degrés, 8 à Chambéry, 9 à Lille, 12 à Paris et Cahors et 16 à Nice.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, on va s'interroger. Pourquoi Cédric Jubilard reste en prison ? Cette affaire, c'est un mystère. Deuxième audition du père de famille devant les juges aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme, Delphine, il y a un an près d'Albi, femme toujours introuvable. Depuis, Cédric Jubilard clame son innocence, mais il reste mis en examen et écroué. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Patrick Tégéraud.
Bonsoir Julien, bonjour à tous.
Alors, il n'y a pas de preuves accablantes aujourd'hui envers Cédric Jubilard, mais il y a une multitude d'indices, c'est ça ?
Alors, une multitude, peut-être pas, un grand nombre en tout cas. Ouais. D'abord, le témoignage de l'aîné de la famille, le petit Louis, qui a 6 ans, il a dit au juge qu'il a entendu et vu ses parents se discuter. Il est sorti de sa chambre, il était bien après 22h30. Or, Cédric Jubilard affirme n'avoir plus revu son épouse après le coucher du petit, justement, à 22h30.
Mais il n'y a pas que ce témoignage d'enfant.
Non, ben, il y a des petits problèmes dans les prises de position de Cédric, peut-être même des mensonges. Alors pourquoi Cédric, par exemple, dit que son épouse sortait les chiens pratiquement tout le temps la nuit ? C'est absolument faux, personne ne l'a jamais vu faire ça. Pourquoi son téléphone portable tombe en panne très opportunément, pile poil au moment où voilà, il aurait aimé ne pas être peut-être géolocalisé ? Et puis il y a cette voiture, la voiture de Delphine, qui change de sens. Le soir, on l'aperçoit avec dans le sens de la pente, hein, le capot vers le haut. Et puis le lendemain, eh bien, les gendarmes la trouvent dans l'autre sens, le capot vers le bas. Manifestement, cette auto a bougé dans la nuit. Et puis il y a cet amant un petit peu mystérieux, la justice l'a entendu par trois fois, mais sans plus.
Et cette liaison justement de Delphine Jubilard avec son amant, les avocats de Cédric Jubilard, donc du suspect, s'en servent pour dire « attention, il y a peut-être une autre piste à creuser ».
Oui, car figurez-vous que ce 15 décembre, avant la soirée mystérieuse, avant la disparition de Delphine, il se passe deux événements dans la journée. À la banque, Delphine fait changer ses codes pour que Cédric ne surveille pas ses comptes, car elle fait des dépenses avec son amant. Et justement, elle échange des SMS avec lui, et la compagne de son amant découvre ainsi l'existence de Delphine, et entre aussi en contact avec elle par SMS. Elles échangent ainsi une vingtaine de messages, plutôt courtois, l'a trompé, expliquant à Delphine qu'elle va bientôt rentrer dans son département d'origine, La Réunion, et qu'elle doit donc désormais interrompre la liaison avec cet amant, car elle pourra la reprendre dès son départ. Et nos confrères de la Dépêche du Midi ont aussi révélé que cette femme avait échangé plus de 150 messages avec un personnage encore non identifié les 15 et 16 décembre, avant et après la disparition de Delphine Jubilard. Alors, les avocats de la Défense exigent désormais que les gendarmes s'occupent de ces étranges et très nombreux messages.
Le mystère Jubilard, l'éclairage de la brigade RTL. Merci beaucoup Patrick Tégéro. On va marquer une petite pause dans RTL Soir et puis ensuite on va accueillir notre invité. C'est le numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve. Il va réagir au blâme infligé, on en parlait à l'instant, à Didier Raoult aujourd'hui. Et puis à la montée de la cinquième vague. Inquiétude et première déprogrammation, surtout dans les hôpitaux marseillais. C'est l'une des villes les moins vaccinées du pays. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier.